l'algorithme.
Les réseaux sociaux, c'est obligatoire.
Il y a un côté presque un peu fast fashion.
Un set, une track.
Aujourd'hui, DJ is the new rockstar.
Être DJ, enchaîné de morceaux, tout le monde est en capacité de le faire.
Moi, je pense que la musique, c'est du partage.
Pour moi, c'est un voyage, un sentiment de communauté aussi.
Je pense que le Covid a fait beaucoup de mal.
Maintenant, on recherche clairement l'image, l'instant T, le banger.
À l'heure actuelle, c'est ça. Il faut que ça soit en vidéo.
La musique, c'est de l'écoute, c'est pas de l'image.
Il y a peut-être un appétit, une gourmandise du feedback.
Si on n'en discute pas, il n'y aura pas de changement.
Bienvenue dans Online Club, un podcast en 3 épisodes qui interroge un panel d'actrices, DJ et organisatrices de soirées sur la musique électronique, la club culture, le DJing, la communication et la notion de communauté à travers le prisme de la révolution numérique. Ce podcast aborde, dans un ordre chronologique, l'époque des vinyles, que nous appellerons l'ère pré-internet, l'apparition d'internet, du numérique et leur impact sur la club culture, et enfin l'ère des réseaux sociaux, les algorithmes et effets de mode. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Yuen, aka YN, DJ et passionné de musique électronique depuis mes 16 ans lorsque j'ai découvert les clubs techno dans la ville de Lyon. J'ai aujourd'hui 27 ans et je suis également étudiant à l'école supérieure d'art et de design d'Orléans avec laquelle j'organise des soirées à mon échelle. En 10 années de pratique du clubbing, j'ai remarqué un changement dans la scène électronique. L'arrivée d'internet, le développement des plateformes de streaming et l'avènement des réseaux sociaux ont changé notre manière de découvrir et d'écouter la musique, passant du temps long de la matérialité à l'instantanéité du numérique. De même, notre appréciation des soirées en club a été bouleversée par l'apparition des smartphones et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent leurs soirées à filmer abondamment DJs et artistes, mettant une distance entre elles et le moment. Ceci pour mieux regarder par la suite ces vidéos et garder des souvenirs de l'événement. Pourtant, ne garde-t-on pas mieux en mémoire un événement en le vivant pleinement, plutôt qu'en passant son temps à le filmer ? Souvent, ces vidéos se perdent dans la galerie de notre téléphone sans que nous n'y retournions jamais. Ce phénomène, qui n'existait pas dans les années 90, est aujourd'hui endémique, quel que soit le type d'événement, et est symptomatique d'une appréciation plus solitaire de la musique. Cependant, il n'y a pas de musique sans public, sans communauté. Mais alors, comment s'est opéré ce changement de paradigme ? Comment est-on passé du disquaire à Spotify ? Quels sont les enjeux qui sous-tendent la numérisation ou digitalisation de la club culture ? Quelle est la place des communautés ? Comment les réseaux sociaux, les algorithmes affectent-ils publics et artistes ? Voici quelques questions que nous nous poserons dans ce podcast. Dans le cadre de cette création radiophonique réalisée avec l'aide de Radio Campus Orléans, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer sa programmatrice, Viviane Behrer, DJ sous le nom de DJ Vivi et animatrice de l'émission Rien ne fera venir le jour, que je remercie pour m'avoir permis de créer ce podcast. J'ai aussi pu interviewer Camille Belin, aka Camtar, DJ, fondateur du festival aujourd'hui terminé Fusion Estival. Il est aussi le fondateur de Tarmac 3000, son chargé de communication et programmateur. Fun Ryu, DJ et cofondateur du label Jerry Horny. Maël Cobb, DJ et membre du collectif parisien Two Steppers. Kidja, DJ, animateur de l'émission Il est chelou ton son et organisateur d'événements. DJ Mr. Wallace, DJ, organisateur d'événements et co-animateur de l'émission Le Saint-Disque. Et enfin, François, DJ et co-animateur depuis 10 ans du catalogue électronique. Grâce à ces entretiens menés à Radio Campus Orléans en présentiel ou en visioconférence, j'ai pu récolter des récits, des expériences de vie que j'ai pu confronter et que je voulais vous partager. Online Club épisode 1, l'époque des vinyles, l'ère pré-internet. Il était un temps où Internet n'en était qu'à ses balbutiements. Pour mixer du disco, de la house ou de la techno dans des soirées, il fallait se constituer une connexion de vinyle toujours plus grande. Il était alors nécessaire de se rendre chez les disquaires spécialisés et de se confronter au temps long de la matérialité. Il fallait d'abord regarder dans les bacs, choisir les vinyles dont les jaquettes nous parlent, puis se placer devant la platine, sortir le vinyle, l'écouter, le ranger, puis recommencer avec un autre. Selon le temps que l'on passe sur chaque vinyle, on en écoute entre 10 et 20 par heure. Bien souvent, on peut demander conseil au vendeur qui connaît sa sélection sur le bout des doigts. Cela crée du lien entre le disquaire et le DJ ou le simple collectionneur. Ainsi, la sélection de disques était une grande partie du travail du DJ, hormis l'apprentissage et le perfectionnement des techniques de mix. Tout d'abord, il me semblait intéressant d'aborder la perception que nous avons de cette période, nous, les plus jeunes générations, ne l'ayant connue que par l'intermédiaire de nos aînés. J'ai donc posé la question à Maël, né dans les années 90.
Bah, je la perçois comme une période qui est complètement différente de la période d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout se fait un peu par les réseaux sociaux, qu'à l'époque, il fallait vraiment aller se déplacer dans les disquaires et un peu aller chiner un peu ses pépites. Donc, il y avait une relation, je pense, qui était complètement différente aussi avec les parties prenantes, que ce soit les disquaires ou que ce soit les magasins de disques. En fait, c'était vraiment une autre époque. Et après, moi, cette relation que j'ai eue, j'ai pas eu énormément d'expérience parce que voilà, je suis un peu plus jeune et du coup j'ai été tout de suite un peu bercée par l'ère du numérique. Mais en tout cas, de mon souvenir que j'ai à l'époque, c'était vraiment que le disquaire, c'était vraiment un lieu de rencontre. On se transmettait un peu toutes nos pépites, etc. Du peu que j'y suis allée, moi j'y allais un petit peu des fois avec mes sœurs, etc. Parce qu'elles aussi sont vraiment à fond dans la musique. Et du coup, je me rappelle vraiment de ces lieux-là comme des lieux de rencontre où on échangeait sur la musique telle qu'elle était et pas tellement sur les à côté. Et après, ce que je me souviens un peu de cette époque-là, c'est qu'il y avait vraiment une écoute qui était assez attentive des disques, qu'il y avait un engagement autour de l'objet, parce qu'aujourd'hui, vraiment, tout est dématérialisé. Donc, le vinyle, c'était vraiment un objet à part entière. Ça l'est toujours, mais à l'époque encore plus.
Maëlle dit quelque chose de très vrai. C'est une époque différente d'aujourd'hui. Et pour mieux le comprendre, il suffit d'écouter des personnes ayant vécu cette période nous expliquer comment ils l'aperçoivent aujourd'hui. Je pose alors la même question à François, DJ Mister Malas, Viviane et Kidja.
Avec nostalgie un petit peu, parce que les méthodes d'écoute et de découverte ont changé. Il y avait un petit peu plus, c'était un petit peu plus humain, on va dire. Même si moi j'écoutais des trucs à la radio ou découverte par la radio et puis aussi par la presse écrite. Donc fallait se faire une idée en lisant des articles sur ce qu'on voulait, ce qu'on pourrait découvrir et écouter.
On était limité, quoi. Par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on allait dans le magasin de disques, on était limité par ce qu'il y avait. À l'époque même, les disques, on les trouvait dans les magasins, les supermarchés. Il y avait un rayon aux 45 tours. Mais on était limité. C'est-à-dire que des fois, on entendait un titre à la radio. Voilà, je parlais tout à l'heure de l'émission de Megamix. C'était une émission où des fois, il y avait malheureusement peu de copies éditées en vinyle. On appelait le magasin de disques parisien pour avoir la commande. Et des fois, frustration, parce qu'il n'y a plus ce disque-là.
Il était encore très compliqué de découvrir et de se procurer de la musique électronique à l'époque, et tous les moyens étaient bons.
Bah, c'était une période où la musique n'était pas forcément accessible, en effet, comme aujourd'hui, quoi. Donc, on se renseignait comme on pouvait, on essayait de trouver des nouveautés, trouver des nouvelles choses à écouter. C'était le bouche à oreille qui fonctionnait quand même beaucoup entre les groupes de personnes. Voilà, on se faisait découvrir des choses, on se faisait des cassettes, on se faisait des CD.
C'est vraiment une autre époque, une autre façon de faire. J'avais un intérêt moindre aussi. Moi, j'ai bouffé de la cassette, de la mixtape de copains. J'ai cette chance d'avoir eu des copains DJ, un frère DJ. Et puis une émission Radio Campus. Enfin, j'étais pas dans l'émission, mais j'écoutais une émission de Radio Campus qui s'appelait Nation Groove, qui existe encore, et qui passait de la drum and bass. J'enregistrais ça sur des cassettes.
Dans les années 90, les cultures club, techno et musique électronique n'en étaient qu'à leur début. La communication se faisait principalement via des flyers, ces petits bouts de papier que l'on distribuait dans la rue. Mais je me demandais s'il y avait d'autres moyens de communication qui nous permettaient de nous tenir informés des soirées et de la programmation musicale.
Alors, déjà le bouche à oreille, en effet, hein, quand tu étais dans le même crew, forcément, en fait, tu sortais avec tes potes. Donc, y en avait un qui savait ce qu'il allait avoir. Et puis qui lidait un petit peu tout ça. Ou sinon, il y avait aussi de la presse spécialisée dans laquelle on trouvait des infos sur les festivals notamment. Alors moi, je pense à Coda ou à Trax après, ou spécialisé de façon spécialisée dans la musique électronique, mais en effet, c'était les fanzines, la presse spécialisée, qu'on pouvait feuilleter en fait à la médiathèque, par exemple, pas besoin de se l'acheter. Et puis les fanzines, c'était sur les festivals et tout ça, donc on trouvait aussi de la matière pour aller savoir ce qu'il allait avoir et organiser un petit peu les sorties du week-end en fonction de ça, quoi.
Les radios, ils communiquaient beaucoup. Et puis après, c'était l'arrivée du Minitel. Il y avait 3615 Rêve, où là, tu pouvais justement te tenir informé des différentes soirées qu'il pouvait y avoir. Après, au niveau, à mon niveau, à moi, bah, c'était en fin de compte les affiches, tout simplement. Et puis bah, les flyers, voilà, les petits bouts de papier qu'on distribuait pour voilà, faire la programmation de nos soirées, faire de la pub. Qu'on pouvait retrouver dans différents magasins, sachant qu'Orléans, à l'époque, il n'y avait qu'un seul magasin de disques spécialisé. Donc, on savait très bien où aller, s'il y avait éventuellement une soirée qui pouvait nous intéresser. Et puis après, bah, voilà, au niveau national, si on était sur Paris, il y avait Radio FG, Radio Nova, qui donnaient les infos. Bah, tiens, rendez-vous parking de Auchan, samedi 23h, et puis il y aura un convoi pour vous emmener à Tel Rêve en banlieue parisienne, quoi. Donc, c'était... fallait se tenir informé, fallait savoir où aller chercher les informations, quoi. Mais fallait y aller, quoi. Comme contrairement à maintenant où tout arrive plus facilement. Donc, mais la presse spécialisée, encore une fois, ouais, a tenu un rôle important pour savoir quelles étaient les soirées à faire et à quel moment fallait bouger sur Paris ou ailleurs. Hein.
À Paris, il y avait à Paris dans les années 90 et 2000, il y avait carrément des petits livrets avec toutes les soirées. Qui se passait dans Paris, quoi. Et ça, tu trouvais ça dans tous les bars. Mais ouais, il y avait des livrets, oui, avec des codes couleurs, tu sais, pour savoir si c'était rock ou électronique ou machin, un truc.
Si les imprimés, que ce soit des flyers, affiches ou magazines spécialisés, ont joué un rôle central dans la diffusion et le rayonnement des musiques électroniques, les radios ont peut-être joué un rôle encore plus important.
Il y avait les radios, bien sûr, qui étaient des lieux privilégiés déjà pour la naissance de toutes ces musiques et pour aussi le soutien en fait au mouvement. C'est-à-dire que c'était un mouvement qui était quand même beaucoup réprimé. Et donc, cette contre-culture, elle intéressait aussi les radios. Alors, je pense aux radios associatives, bien sûr, mais à Radio Nova également, où... FG au début, hein, qui se sont vraiment emparés de ces musiques nouvelles, musique électronique, avec des communautés fortes et qu'en ont fait aussi leur spécificité de programmation. Enfin, je pense à FG, pas forcément à Nova en fait, qui est plutôt allé sur les sorties en fait, la hype, le fait de sortir à Paris, quoi. Et puis après, en province, en effet, il y avait des radios associatives. Alors, soit en effet, elles avaient des émissions de musique électronique, soit elles s'intéressaient de toute façon à ce mouvement qui était réprimé. Et par essence, en effet, ça va intéresser une radio associative sur le plan local, sur son territoire.
Chez les disquaires, tu allais pouvoir trouver des infos, des infolines, des flyers de soirée. Et après, pour ceux qui avaient accès aux radios parisiennes, il y avait... il y avait, je crois, le samedi soir, le mec qui balançait des infolines. Alors ça, je sais plus quelle époque, c'est, tu vois, ça, je l'ai un peu appris et j'étais là genre, waouh, putain. Mais sinon, ouais, c'est ça, tu vas chez le disquaire ou tu croises des gens, pour la techno, tu croisais des gens lookés techno. Et vraiment, et tu vois, et au bout d'un moment, ouais, c'était les petits poils, les mecs en kaki avec leur casquette. Et c'est ça, il n'y a pas une teuf ce soir. Voilà, quoi. Ça, ouais, mais ouais, c'est ça, toujours le bouche à oreille.
Évidemment, il ne reste aucune trace des émissions radio ou des infolines répondeurs téléphoniques préenregistrés donnant des informations sur les soirées aujourd'hui. Cependant, si nous regardons les flyers, on peut voir que l'horaire de l'événement, le lieu, la date et le nom de la soirée sont mentionnés, mais que les DJ ne sont pas toujours mentionnés. À l'époque, les participants et participantes semblaient accorder plus d'importance à la réputation d'une soirée qu'à celle des DJ, ne nécessitant pas de mettre leur nom pour attirer du public. Je me demande si c'est la preuve que la notion de communauté, ou en tout cas de partage et d'ambiance, était centrale à l'époque. Je pose alors la question, pourquoi et qu'est-ce qui motivait les gens à aller en soirée techno à l'époque ?
Pour l'ambiance, pour le lieu, et au début effectivement pas pour les DJ, même un certain nombre de DJ qui revendiquaient qu'on ne les voit pas. Quoi. Soit on ne les nommait pas, soit ils étaient carrément masqué. Enfin, on en a connu jusqu'à il n'y a pas si longtemps avec les Daft et d'autres. Il y en a encore, hein, d'ailleurs, des DJ qui ne se montrent pas, mais il n'y en a plus beaucoup. On est passé sur un autre phénomène. Mais effectivement, le nom du DJ n'était pas si important que ça. C'était plutôt l'organisation, le collectif qui organisait les choses. On savait qu'il pouvait... ramener du bon son, on va dire, et puis aussi des installations, voilà, de la déco, des choses, une organisation à peu près clean. Voilà. Mais effectivement, au début, c'était complètement ça.
Dès les années 80, en fait, il y a cette arrivée d'une nouvelle forme de clubbing. Là, dans les années 90, on est déjà sur une deuxième mouture. Où là, il commence à y avoir ceux qui veulent une version plus radicale et d'autres un truc un peu plus souple et plus cadré. Mais on vient de ça, on vient de soirées où on danse, où il y a un bon son de système, où il y a quelqu'un qui va savoir mener l'ambiance. Et ça, c'est le DJ avec son MC ou pas. Sachant que même quand on regarde dans le raga, on appelle un DJ, c'est celui qui parle sur les morceaux, parce qu'en fait c'est ça, c'est au départ c'est juste annoncer les morceaux, tu fais hey, ça c'est une grosse balle, vas-y mets-toi bien. C'est vraiment ça le truc. Et moi je le vois comme ça, c'est que on a c'était l'ambiance, c'était ce concept de fête de musique amplifiée, de musique répétitive. Ça vraiment du côté électronique, parce que là ce que tu me dis là, les soirées dont tu me parles, ça m'a l'air d'être plutôt des soirées électroniques. Quand il y avait un groupe, le groupe était annoncé. Après, des fois c'était des entités, c'est-à-dire un sound system, donc une organisation avec un groupe de gens. Donc en fait, quand on te donnait déjà ce nom-là, tu savais qu'il y avait ce style de DJ qui allait mixer ce style de truc. Tu savais presque, certaines fois tu pouvais même savoir quel type de drogue t'allais trouver dessus, quoi. Selon les noms des associations. Mais c'est ça, en fait. C'était plus une organisation. Mais par exemple, tu vois, les apéros audio de Radio Campus, ou même Radio Campus, c'est reconnu comme une entité. Et les gens savent que ça sera sympa. Que ça soit électronique, rock, machin ou truc. Il y a cette espèce de. Les entités valides. Mais c'est ça. C'est comme quand tu vas à la fête foraine. Tu sais pas exactement ce qu'il y a, mais tu sais que c'est la fête foraine, quoi.
Ce qui ressort, c'est donc bien que le concept de la soirée en elle-même, le sound system, le fait de danser sur de la musique électronique et de se retrouver pour danser toute la nuit ensemble autour de la même musique, semble bien faire l'essentiel des soirées dans les années 90. Une question me vient alors à l'esprit. Avant les années 90, les DJ étaient encore souvent dans des cabines séparées du dance floor. Alors, à partir de quand a-t-on assisté à cette bascule où les DJ passent d'une présence omnisciente par la musique, invisible mais présent partout, à une présence centrale sur une scène surélevée comme un musicien qui performe ? Peut-on parler de starification du DJ dès les années 90-2000 ?
Alors, je dirais plutôt oui au début des années 90 et... milieu des années 90. Après, il y avait, je pense, des collectifs assez forts. Avec des DJ qui avaient une certaine réputation, ou après des noms de soirées, comme les soirées Respect aux Queen, le mercredi soir. Il y a les soirées Wake Up avec Laurent Garnier, le jeudi Rex. Il y avait pas mal de thématiques. Après, j'ai ramené pas mal de fly. Je trouve quand même que le nom de DJ quand même était quand même présent, même si, voilà, par rapport au fly, par rapport au graphisme, il n'était pas aussi important, quoi. C'était plutôt le style de la musique et la thématique de la soirée qui en ressortait, parce que je pense que avant c'était la musique qui prime avant tout, quoi. C'était la musique, il y avait le DJ bien sûr, mais Voilà, je pense que la question d'ego et puis de DJ Star n'était pas encore présente, même si voilà, il y a eu des DJ américains qui ont commencé à avoir une certaine réputation. Je pense à des gars comme David Morales, Frankie Knuckles, Todd Terry, qui ont commencé à bouger, à se déplacer, à venir en Europe, à avoir des gros cachets. Il me semble que Todd Terry, lors du passage en 2000, je crois qu'il a dû faire 2-3 dates la même nuit en prenant un avion avec le décalage horaire et d'empocher un gros pactole. Et après, bah voilà, il y a eu avec l'explosion des musiques électroniques, et puis il y avait un filon à faire, quoi. Donc les bookers sont arrivés dans la partie, et puis ils ont pris de plus en plus de sous. Donc forcément, les cachets ont pris de plus en plus d'importance.
Ça a commencé, les DJ stars, ça a commencé plutôt vers 2006-2007, pas avant. Et à part quelques gros noms, ils étaient finalement très peu fréquents et c'est pas tellement eux qui faisaient venir le public plus que ça. Sauf en clubbing. Mais clubbing, c'est pas un concert. C'est pas la même chose. Effectivement, au début, ils étaient dans un DJ booth complètement isolé. Après, le booth, il était un petit peu plus ouvert, mais enfin, le DJ était resté isolé. Et puis maintenant, on retrouve des trucs à la boiler où le DJ, il est au milieu du bordel et on comprend rien à ce qui se passe. Mais bon, c'est la fête, on voit bien. C'est autre chose. Et là, je reviens de festival. Effectivement, maintenant, les DJ sont... C'est pas un piédestal, mais ils sont sur une scène, ils sont loin. Là, le Sonar, c'est un gros festival, donc ils sont loin, les scènes sont grandes. On voit le DJ sur un écran géant, quoi. C'est pas du tout la même chose. C'est pas forcément ce qu'on attend des musiques électroniques.
Je vais dire, moi je dirais que je l'ai vraiment vu arriver début 2000, avec en fait des DJ qui deviennent des harangueurs de foule. Parce que, en plus, dans la basse musique, il y a ce côté un peu plus, on est en train de tout mélanger, on ne sait pas ce qui se passe et on perd la notion du temps et de l'espace. La drum and bass, c'est des chansons quand même, même si ça peut s'enchaîner. Et la basse musique, c'est encore plus des chansons. Donc, il y a un peu ce truc de « vas-y, on y va, allez, on met le feu ». Mais ça, c'était encore… il y avait des DJ qui étaient chauds de ça, il y en avait qui n'étaient pas du tout chauds de ça. Parce qu'en free party, ils étaient complètement cachés, les DJ, tu les voyais pas du tout, quoi. C'était même pas, ils étaient dans une boîte, c'était, mais il est où? Il est caché derrière une tenture militaire, il est. Ça importait pas. C'est à partir du moment où ça fait de l'argent. Et puis après, la joie des vidéos qu'on partage. Et après, il y a eu les reels et les stories. Et puis alors là, c'était la fin. Il a fallu savoir faire 1000 gestes derrière les platines pour être un peu sexy. Come on, dance with me, come on, body, dance with me, come on, body, dance with me, come on, body, dance with me, move your body, your legs a bit.
Les années 90, qui ont vu naître la fête techno en France, apparaissent comme les années fondatrices du clubbing contemporain. Participer à cette culture nécessitait, que l'on soit amateur de fêtes techno et ou DJ, une implication bien plus grande qu'aujourd'hui. Il fallait écouter les radios, aller chez les disquaires, récupérer les flyers et infolines, sans quoi nous n'avions pas accès à l'information. Cependant, la démocratisation d'Internet va radicalement changer la donne. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode d'Online Club, Internet et numérique, rendre la culture plus accessible.
L'algorithme.
Les réseaux sociaux, c'est obligatoire.
Il y a un côté presque un peu fast fashion.
Un set, une track.
Aujourd'hui, DJ is the new rockstar.
Être DJ, enchaîné de morceaux, tout le monde est en capacité de le faire.
Moi, je pense que la musique, c'est du partage.
Pour moi, c'est un voyage, un sentiment de communauté aussi.
Je pense que le Covid a fait beaucoup de mal.
Maintenant, on recherche clairement l'image, l'instant T, le banger.
À l'heure actuelle, c'est ça. Il faut que ça soit en vidéo.
La musique, c'est de l'écoute, c'est pas de l'image.
Il y a peut-être un appétit, une gourmandise du feedback.
Si on n'en discute pas, il n'y aura pas de changement.
Where choices were all in vain. Learn to absorb the fate and do not dare to complain. When everything was lacking, it's illusion we ate. If damages come out, we won't waver, no, we can't. Wish I could say. There's nothing left to gain.
How are you feeling?
Well.
How long have you been here?
It's been 3 months, May 17.
And what's the progress?
What is it you're trying to do with your life?
Play the piano for people.